Pourquoi ce texte peut-il être providentiel pour une rentrée? Pourquoi ce texte peut-il être providentiel pour une rentrée dans une paroisse, pour une rentrée scolaire? Eh bien, l'objectif d'une rentrée, en particulier en paroisse, c'est de constituer une assemblée nouvelle en marche vers le royaume. Il y a une diversité des personnes qui sont là. Il y a les anciens, il y a des nouveaux sur le quartier, des anciens dans la foi, des nouveaux, des recommençants. Il y en a qui sont en situation régulière, d'autres en situation irrégulière. Il y a des jeunes, il y a des plus âgés. Il y a une grande diversité des personnes qui sont là et qui sont appelées à devenir une seule assemblée, à devenir un peuple d'un seul cœur. Or, justement, dans cet évangile, on voit l'un des efforts du Christ pour constituer le peuple de Dieu, pour renouveler le peuple de Dieu. Et il va le faire par une révélation du Père, de qui est le Père, une révélation de la figure du Père. De fait, il est face à un peuple divisé. On entendait au début de l'évangile des publicains et des pécheurs, les publicans, les collecteurs d'impôts, les pécheurs, ceux qui commettent le mal, se pressent pour entendre Jésus. Et de l'autre côté, les pharisiens, amoureux de la loi de Moïse, très attentifs au respect des prescriptions, et les scribes plongés dans les Écritures récriminent. Ils ne comprennent pas. Comment ce Jésus fait bon accueil aux pécheurs? Il mange avec eux. Et on ne peut pas faire un seul peuple. Nous ne pouvons pas faire un seul peuple avec ces gens qui sont méprisants de la loi, qui ne vivent pas selon ce que nous a demandé Moïse de la part de Dieu. Mais il faut d'abord entendre le point des pharisiens. Il faut entendre le point des pharisiens. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont choqués par ce qu'ils voient? Parce que manger et boire avec les gens qui commettent le mal, de l'extérieur, c'est assez ambigu. On pourrait se dire, mais s'ils mangent et boivent avec eux, est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils partagent leur vue, qu'il est d'accord avec leur façon de vivre? Et d'une certaine manière, qu'il est complice même de ce qu'ils font. Quand on partage le même repas, dans les logiques sacrificielles, c'est un repas de communion. Et donc, ben voilà, vous qui faites le mal, soit je trouve que c'est pas trop grave, soit je trouve que c'est bien. Et pour ça, c'est inacceptable. Or, Jésus, justement, vient à la fois répondre à leurs craintes et élargir même ce qu'ils auraient pu imaginer. Jésus va adresser un enseignement, et cet enseignement, ces paraboles que nous avons entendues, elles sont d'abord adressées aux pharisiens et aux scribes. Pourquoi? Pour leur éviter, justement, de s'exclure du peuple que Jésus est en train de constituer, et du coup, de s'exclure du royaume des cieux. Comment ça? Premier point, est-ce que Jésus est en train de dire, en mangeant et buvant avec les publicains et les pécheurs, que c'est pas grave, rien n'est vraiment grave, vivez comme vous voulez, ça n'a aucune importance? Si nous nous souvenons de la troisième parabole et de ce qui est dit du fils prodigue qui est revenu, on voit bien que Jésus ne veut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre ce que dit le Père, vous savez, au fils aîné, et ce que dit le serviteur au fils aîné. Le serviteur, il comprend, ah, quel est le motif de la fête? Il est revenu en bonne santé, alors on fait la fête. C'est pas du tout ce que le père avait dit. Le père avait dit, mon fils que voilà était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Alors, symboliquement, il était, je veux dire, mais non, son cœur avait jamais cessé de battre. Il était spirituellement mort. Il était perdu, il était damné, et il est revenu à la vie. Ce qui se passe, il y a quelque chose d'extrêmement profond et d'extrêmement grave qui s'est joué. C'est un passage de la mort à la vie, c'est pas « oui, il est en bonne santé, allons-y ». Et donc Jésus ne minimise en aucun cas la gravité et le désordre de ce qui a pu être vécu. Le Christ n'est jamais complice du péché. Il est venu sauver les pécheurs, mais il n'est jamais complice du péché. Alors c'est extrêmement important pour saisir la suite. Parce que, alors, on va commencer à comprendre. Parce qu'on pourrait dire, d'accord, Jésus ne réduit pas la responsabilité. Il ne dit pas que rien n'est grave. Mais quand même, quand on regarde le motif pour lequel le fils cadet est revenu, c'est quand même pas extraordinaire. Pourquoi il rentre en lui-même? Parce qu'il a faim. Parce qu'il crève la dalle. C'est pas tant, père, j'ai considéré que tu étais mort pour moi, c'était quand même assez raide ce que j'ai fait. Et puis, ce que tu m'as donné, j'ai tout dépensé n'importe comment. J'ai faim, je suis en train de mourir de faim ici et chez mon père il y a à manger. Alors il comprend quand même qu'il s'est mal comporté envers son père. Et il comprend, et petit à petit il avance sur la prise de conscience. Je ne mérite pas, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il a fait un pas de plus, il avait seulement faim, maintenant il prend conscience de ce qu'il a fait à son père. Et il revient comme ça, sur le chemin, l'évolution de son cœur a pu évoluer. L'évolution de son cœur, j'allais dire, pour comprendre ce qu'il avait fait, a pu s'affiner encore. Mais il y a un événement qui se produit, c'est que, alors même qu'il est encore loin, le Père l'aperçoit et va lui révéler une facette qu'il n'avait pas imaginée. Le Père court, l'embrasse, le couvre de baisers, le serre sur son cœur et le couvre de baisers. Avant qu'il ait dit « quoi que ce soit ». Avant qu'il ait dit quoi que ce soit. Voilà que ce fils qui pouvait être anxieux, cet homme qui ne méritait plus d'être appelé son fils, reçoit un amour gratuit. Est-ce qu'il l'a mérité? Aucunement. Aucunement. Mais voilà que son père lui dévoile un amour gratuit et son père a la puissance de le rétablir comme fils. Commence le fils en disant « J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils ». Et le Père a la puissance de pouvoir dire « Mon Fils, que voilà ». Il le rétablit. Il va lui redonner une dignité. Et du coup, on voit que quelle est l'œuvre de Jésus, non pas d'être complice avec le péché, mais d'aller rejoindre le pécheur qui est encore en chemin. Il n'a pas encore un cœur complètement converti, mais ça commence. Et alors, il va le saisir. Il va le saisir en lui révélant son visage pour qu'il puisse justement, par sa grâce de Père, aller jusqu'au bout. Il y a un rétablissement, ce n'est pas du tout un aveuglement sur ce qu'il avait accompli. Et quant au fils aîné, vous voyez que le fils aîné, en fait, si vous regardez la façon dont il voyait son lien avec son père, qu'est-ce qu'il dit? Depuis tant d'années, je suis à ton service sans enfreindre aucun de tes ordres. Pour lui, être fils, c'est être serviteur. Un bon serviteur, mais être seulement un serviteur. Lui non plus n'a pas compris qui était son père. Il n'a pas découvert la relation à un père. Il a découvert une relation à un maître. Et il en est tout triste. Tu m'as jamais offert un chevreau. Le père doit lui révéler d'abord toi, mon enfant. Comme il a dit à l'autre, mon fils, il lui dit à lui aussi, mon enfant. Il sort aussi à sa rencontre. Ce n'est pas que le fils cadet aurait été le préféré et le fils aîné n'est pas très aimé. Il sort pour les deux, il va à la rencontre des deux. Il leur dit son affection aux deux. Tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il ne l'avait jamais compris. Il ne l'a jamais vu. Il ne l'avait jamais intégré. Et alors parce que son père lui dévoile ainsi ce jour-là, plus profondément son amour, sa relation, il lui donne de pouvoir entrer dans une relation filiale et pas simplement dans une relation de maître et de serviteur, alors il va donner un avenir à leur fraternité. Comment peut-on constituer une assemblée? Parce qu'on a un même Père qui nous aime, un même Père qui nous donne la force de nous convertir, un même Père qui nous donne la force de nous regarder avec espérance là où nous n'aurions plus une espérance. Il y avait un petit jeu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Le fils aîné, quand il parle de l'autre, il ne dit pas « mon frère », il dit « ton fils ». Et le père, quand il lui répond, il lui dit « ton frère ». Le fils aîné, il veut se « tiens-toi loin, là ». Et le père est en train de dire « non, c'est ton frère ». Il l'est rétabli dans la fraternité. Si nous voulons constituer un peuple de frères, nous sommes appelés à découvrir la beauté, la bonté de celui qui est devenu notre père par le baptême. Nous devons contempler ce visage. Alors il y a une question qui peut se poser pour nous. Comment est-ce qu'on fait la rencontre du Père aujourd'hui? Parce que, à l'époque, Jésus dit à ses apôtres, « Qui m'a vu a vu le Père. » Je pouvais aller voir Jésus, je pouvais le voir, je pouvais saisir la bonté du Père en le rencontrant. Il y a un lieu tout particulier qui nous est donné, où nous pouvons contempler le Christ, qui se laisse avoir même longuement, et qui est ce lieu, l'adoration eucharistique. Jésus hostie, Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel, exposé et qui se laisse avoir, qui se laisse à regarder, où nous pouvons avoir le temps, j'allais dire de la même façon qu'il faut du temps à notre cœur pour se retourner, de voir, de contempler, de nous laisser saisir, illuminer par la bonté de l'amour du Père. Nous avons cette chance sur la paroisse de pouvoir offrir une adoration permanente du lundi soir 20h jusqu'au vendredi soir 20h. L'accès est libre à l'oratoire Saint-Joseph de 8h le matin jusqu'à 20h le soir et sur inscription pour les créneaux de nuit. Ne ratons pas cette opportunité d'aller regarder Jésus hostie pour à travers lui découvrir le visage du Père, la bonté du Père. On a parfois un peu peur, oh c'est un engagement, qu'est-ce que je vais y trouver? Est-ce que je suis sûr d'y trouver? Souvenons-nous, il est possible que le fils prodigue ait eu un peu peur en approchant de la maison du Père, mais il y avait tant à découvrir. Le fils aîné a dû hésiter, on ne sait pas s'il est entré tout de suite dans la maison, mais c'est pour l'un et pour l'autre l'occasion d'entrer dans la joie du Père. Oser découvrir l'adoration eucharistique, c'est se donner l'opportunité de découvrir cette bonté du visage du Père qui fait de nous un peuple de frères. Frères et sœurs, en cette rentrée, entrez à votre tour dans la chapelle de l'adoration. Découvrez le visage du Père à travers Jésus hostie. Amen.